talmudique. En 1969, à l'occasion de la quinzaine Air Pur, pendant la campagne contre la pollution atmosphérique, un concours scolaire était organisé dans les classes du premier cycle de la Gironde afin d'attirer l'attention des enfants sur ce problème environnemental. Un exercice a priori pas évident pour ces collégiens, pour qui la pollution atmosphérique était encore assez théorique. Ces jeunes collégiens étaient invités à décrire leur monde idéal dans des rédactions. Le premier prix était attribué à une jeune collégienne de 6e d'un collège de Libourne. « Je m'appelle Josiane Canet, j'ai 12 ans, je suis née le 29 mars 1958. » Devant les caméras du JT Aquitaine Midi, elle lisait quelques extraits de son texte. « Dans mon imagination, il est une ville idéale, où l'air n'est jamais pollué. Elle s'appelle la Renaissance de l'air pur. Les rues sont de larges allées goudronnées, bordées de larges trottoirs et surtout d'arbres verts. Il n'y a pas d'usine. » La conclusion de son devoir était très poétique et décrivait une très belle utopie. Quand on entre à la Renaissance de l'air pur, la fleur embaume, l'arbre frissonne sous la caresse de la bise qui murmure sans cesse « air pur, 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 air pur ». Et le vent chuchote dans les feuillages la devise de la ville qui flotte sur tous les drapeaux « liberté, pureté, santé ». Cette archive de 1969 montre à quel point la question de la pureté de l'air et de la pollution était déjà une question fort ancienne. Une pureté de l'air qui se conjugue aujourd'hui, pour certains, avec d'autres désirs de pureté qui n'ont pas la même tonalité. Je pense aux idéologies de pureté de la race dont nous avons vu il y a 15 jours en Nouvelle-Zélande, et ce n'est qu'un exemple, la terrible et insupportable violence que cela génère. Dans les deux cas, c'est le mot pureté qui est utilisé. Deux contextes différents, deux époques, mais le mot fait son retour sur la scène publique ou sur les réseaux sociaux. On témoigne à l'adresse des adolescents un test de pureté déjà apparu dans les années 2000 et qui revient en force et qui consiste en une cinquantaine de questions portant sur les thèmes de l'alcool, du sexe, de l'hygiène, de la morale et de la drogue à évaluer notre taux de pureté, mais surtout celui d'impureté. Pur et impur, actualité de ces concepts qui intéressent aussi de jeunes chercheurs en littérature et sciences humaines qui se réuniront à Amiens en mai prochain dans le cadre d'un colloque organisé par l'Université de Picardie intitulé « Le pur et l'impur, figuration de la souillure et aspiration à la pureté dans la littérature du Moyen-Âge à nos jours ». Dans son livre « Le pur et l'impur », l'écrivain Colette fait dire à l'un de ses personnages « Le mot pur ne m'a pas découvert son sens intelligible, laissant comprendre que l'idée d'impureté est plus facile à cerner, car lieu, par excellence, du mélange, des compromis et des ambivalences, du devenir et de la corruption. Les jugements de pureté et d'impureté engagent ainsi tout un système symbolique dont les implications métaphysiques, philosophiques, morales, politiques, esthétiques et spirituelles doivent être questionnées et qui, loin d'être considérés comme des objets immuables, doivent être historicisés. Pour tenter d'éclaircir ces concepts complexes et parfois contradictoires, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui une philosophe qui a consacré d'importantes recherches à l'ensemble de ces problématiques. Catherine Chalier, bonjour.
Bonjour Marc-Alain.
Catherine Chalier, je suis très heureux de vous recevoir à nouveau dans Talmudique. Les auditeurs vous connaissent bien. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de philosophie de l'Université de Paris-Ouest Nanterre et qu'à la suite de Lévinas, vous explorez, comme vous aimez à le dire, le lien entre philosophie et la tradition hébraïque de la pensée. Vous venez de faire paraître un très beau livre, novateur et lumineux, consacré aux questions que je viens d'évoquer, un livre intitulé « Pureté, virgule, impureté, une mise à l'épreuve ». Qu'est-ce qui vous a amené à l'étude et aux recherches de cette problématique du pur et de l'impur, Catherine Chalier ?
Je crois que c'est un thème sur lequel je pensais depuis longtemps. Et ce qui m'a conduit à consacrer ce livre, c'est... En premier lieu, pour être un peu au clair moi-même sur le sens de ces notions qui sont très présentes dans l'actualité, comme vous venez de le rappeler, mais qui ont eu un passé très très lointain, puisque dans la Bible en particulier, elles ont un rôle considérable. Et donc j'ai essayé d'y voir clair en essayant de proposer une approche je pense, un petit peu nouvelle de ces notions. C'est pour ça que j'ai mis aussi en sous-titre une mise à l'épreuve, c'est-à-dire une mise à l'épreuve du sens de ces notions qu'on croit que le sens est acquis, mais c'est pas du tout sûr et certain. Et puis, c'est une mise à l'épreuve de nous-mêmes vis-à-vis de ces notions.
Alors, vous venez d'évoquer le sous-titre, je pensais mise à l'épreuve aussi de la littérature que vous évoquez beaucoup, de la philosophie, des textes de la tradition hébraïque, vous venez d'en parler, mais j'étais questionné par la formulation du titre « pureté, virgule, impureté » et le sous-titre, on vient d'en parler, « une mise à l'épreuve ». Par exemple, chez Jean Kelevitch, le livre s'appelle, il a écrit un livre qui s'appelle « Le pur et l'impur » avec une conjonction de coordination. Pourquoi ne pas l'avoir repris ici ?
D'une part, je n'allais pas reprendre le titre de Jean Kelevitch. C'est un très beau livre d'ailleurs, mais ma perspective diffère de la sienne. Et puis, j'essaie justement de penser d'abord dans ce livre ce que chacune de ces notions, la pureté d'une part, l'impureté d'autre part, met en jeu et qui peut être très dangereux dans les deux cas, pour en finir dans la dernière partie du livre, qui est à mes yeux la plus importante, par proposer ce que j'appelle avec un poète l'autre pureté.
Alors là, sur cette autre pureté, nous allons y revenir. Je précise que nous allons faire un voyage en deux émissions. Dans cette première émission, nous allons poser les concepts et dans la seconde, nous approfondirons justement cette autre pureté. Un des aspects les plus importants de votre réflexion, ou plus précisément des outils qui portent votre réflexion, est celui de force. Vous opposez force à essence. La pureté et l'impureté ne sont pas des essences, dites-vous, mais des forces. Qu'est-ce que vous entendez par là, Catherine Chalier ?
Alors ça, bien sûr, c'est très important. Parce que, par exemple, si vous lisez le livre de Vladimir Yankelevitch, encore une fois, qui est un magnifique livre, sur le pur et l'impur, il pense en termes d'essence. Et donc, à partir du moment où on pense la pureté comme une essence, eh bien, elle va être mise en danger dès que l'impureté risque de s'approcher. Ça, c'est une première raison. Et d'autre part, je prends aussi la source de ma réflexion dans le texte biblique, comme je l'ai dit. Or, la Bible ne parle pas ce langage de l'essence. Le langage de l'essence, il est venu quand les philosophes ont essayé d'interpréter le texte biblique avec les outils de la philosophie grecque. Or, la Bible, elle parle plutôt en termes de force, d'énergie. Ici, j'essaie de réfléchir à la pureté et à l'impureté, donc en termes de forces qui ont des effets qui sont de l'ordre du pur ou de l'impur, mais c'est pas du tout une qualification qui serait immuable, qui serait hors du temps. C'est une énergie qui se déploie dans un sens ou dans un autre, et c'est dans ce sens qu'on peut comprendre en particulier tous les passages très difficiles du livre du Lévitique. Roger Caillois, dans son livre sur le sacré, va dans ce sens-là aussi, à propos du pur et de l'impur, en y voyant des forces qui ne sont pas qualifiées en tant que telles, mais que le passage à l'acte, si je puis dire, qualifie dans un sens ou dans un autre.
Alors, vous venez de citer la Bible. Votre recherche fait dialoguer texte hébraïque et texte philosophique et littéraire. Et cela vous a amené à approfondir le sens des mots hébreux qui disent le pur et l'impur, Tahor et Tamé. Que nous apprennent-ils de particulier, j'oserais dire d'original, de différent, de ce qu'apportent les mêmes mots développés dans la philosophie, Catherine Chalier, en dehors de cette question justement de force et d'essence?
Surtout sur le mot tamé, ce qui a retenu mon attention, c'est une réflexion que j'ai trouvée chez le rabbi Shmuel Bornstein, qui est un rabbin rassid, donc qui a écrit des textes magnifiques, auxquels j'ai aussi consacré un petit livre. Et lui, il le rapproche d'une racine qui signifie stupéfait, ce qui nous sidère complètement. Et il prend comme exemple, et c'est très très important pour la réflexion, le cadavre qui devient absolument insensible à tous les coups qui pourraient être lui être portés. Et c'est très important parce que, disons, le fil directeur de la réflexion sur le pur et l'impur, c'est aussi, et ça prend assise dans le texte biblique, ça on peut le montrer, j'essaie de le faire en tous les cas, l'impur, c'est pas une essence, c'est tout ce qui nous conduit vers cet état décrit par Rabbi Shmuel Bornstein, c'est-à-dire vers la mort. Donc l'impureté par excellence, c'est la mort. Et il y a, comme disent les rabbins, 49 degrés d'impureté avant de parvenir au 50e, et alors là, c'est fini. Et donc ces 49 degrés, donc c'est cette progression de l'énergie. Alors ça peut être le désespoir, ça peut être la destructivité, ça peut être la haine, ça peut être toutes sortes de choses, c'est-à-dire impur, tout ce qui nous finalement conduit vers la mort, vers ce terme-là. Et donc ça, je crois que ça c'est très important à penser.
Alors ce qui est intéressant, et nouveau en tout cas, à mon oreille au moins, c'est de définir la mort, alors que c'est une évidence, comme une insensibilité au monde extérieur. Mais si on comprend cela pour quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui est vivant mais qui est insensible à tout ce qui lui arrive et au monde extérieur, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'impur, selon votre définition, Catherine Chalier.
En particulier, tout ce qui rend aussi insensible à la souffrance et à la souffrance, je dirais, de l'autre, mais pas seulement, parce que au fond, être insensible à sa propre souffrance, ça peut être, c'est généralement lié avec l'insensibilité à la souffrance de l'autre, et puis ça peut être aussi un premier pas vers une pensée de la pureté. Et sur ce point, je rejoindrai Yankelevitch, je suis tout à fait d'accord avec lui, lorsqu'il analyse dans son propre livre comment certaines pensées, en l'occurrence grecques, d'origine grecque, a pu penser la purification comme un ascétisme, comme un refus du corps, comme un refus de la vie, comme une préparation à la mort. Eh bien, ça, c'est pas du tout la pureté, c'est l'impureté.
Alors, c'est l'impureté qu'on va retrouver dans le texte biblique. J'ai employé le terme d'original pour le sens de ces mots, mais peut-être la plus grande originalité de ces textes est qu'ils n'apparaissent pas au cœur d'une réflexion théorique dans la Bible, mais qu'ils sont toujours déjà mis en situation. Je pense au chapitre sur la lèpre que l'on trouve dans le Lévitique 14-14 et auquel vous consacrez de longues analyses, Catherine Chalier.
Oui, alors ça, c'est très important parce que souvent, et en particulier dans la modernité, d'une part, on a une grande méfiance envers les rites qu'on considère comme des choses sans aucune signification, sans aucune importance. Et même un lecteur de la Bible qui voudrait bien étudier cette Bible, et lorsqu'il lit le livre du Lévitique, il se demande à quoi il a affaire. Donc, qu'est-ce que c'est que tous ces rites? Alors, le passage sur la lèpre, c'est très intéressant parce que on demande alors au Cohen, au prêtre, d'examiner cette plaie. On lui demande pas du tout de se demander en quoi la personne est coupable. Ça, c'est notre tendance moderne. Si nous sommes affectés de telle ou telle maladie, même, on va toujours chercher quelque chose qui serait de l'ordre de la culpabilité et qui expliquerait ce qui nous arrive. C'est une façon à la fois rationnelle et puis pseudo-psychanalytique de trouver les raisons de notre souffrance. Or ici, c'est très intéressant parce que c'est pas du tout ça. C'est le Cohen, il dit ce qu'il voit. Et il décrète si cette maladie donc est une maladie naturelle ou bien si elle est une maladie qui va s'étendre de plus en plus. Mais sur ce qui concerne l'impureté, si c'est une impureté, c'est pas forcément une faute. Donc, et puis surtout, c'est qu'il y a une possibilité de réintégrer la communauté. Donc on reste pas dans un état d'impureté, comme si justement c'était désormais son essence et que voilà, c'est fini, on ne peut plus en changer. Il y a des processus pour réintégrer la communauté des vivants, pour refaire partie de la communauté des vivants, et ce n'est pas un processus de repentance, comme ça serait le cas s'il y avait une culpabilité. C'est un processus qui passe par des rites, et ces rites sont une façon de poser dans une extériorité, de façon concrète, des gestes qui miment ou qui éveillent ce qui doit se passer dans le psychisme de l'être humain. Et dans nos traditions juives où le rite reste encore très important, je pense qu'on peut dire cela à propos du rite. Bien sûr, je sais que le rite peut virer en ritualisme, et bon, et ça c'est tout à fait dommageable, mais le rite en lui-même a une force très grande puisqu'il permet par le geste d'appeler aussi la conscience.
Alors je pense à trois éléments de ce rite. Le fait que le Kohen doit prendre une goutte de sang du sacrifice, de la poser sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur l'orteil du pied droit. Et j'ai l'impression que en touchant ces trois parties du corps, c'est une façon de réveiller peut-être l'écoute, puisque c'est l'oreille, de réveiller l'action qui était peut-être endormie, qui est la main, et le pied qui serait une aspiration à marcher, à devenir, en tout cas c'est l'interprétation que j'ai lue chez Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine Chalier ?
Je pense deux choses. D'une part, c'est intéressant que ça soit le droit, parce que droit est toujours dans une symbolique spontanée associée du côté du faste, de ce qui est bon. Bon, on peut en discuter, mais c'est comme ça. Alors que le gauche est sinistre. Donc ça, il y a cette première symbolique qui est très ancienne et qui est très répandue dans les cultures, pas seulement dans ce cas-là. Et puis d'autre part, la question du sang. Parce que la purification, elle se fait en effet... Ça peut se faire avec de l'eau, avec du feu ou avec du sang en particulier lorsqu'il y avait des sacrifices dans le temple de Jérusalem. Et alors, ce qui est important, c'est que, bien sûr, il est interdit de tuer, ça c'est un interdit majeur, mais un sacrifice et le sang du sacrifice, c'est pas du tout considéré comme un acte répréhensible, au contraire, et c'est une façon de rendre à Dieu ce sang qui a pu... par ailleurs, causer des dommages, disons. Voilà. Alors, ici, j'en viens à la question du temple qui était à Jérusalem où tous ces sacrifices se faisaient. On ne faisait pas des sacrifices ailleurs. Et là, ça, je crois que c'est, bien sûr, c'est très loin de notre pensée. J'en suis tout à fait consciente. Mais ces sacrifices qui parfois nous semblent tout à fait épouvantables quand on lit ces passages, en fait, la centralité du temple... Le fait que le grand prêtre devait absolument veiller sur sa propre pureté, ça veut dire veiller à ne pas se rendre impur, pas du tout par faute, mais par mégarde même, aussi. C'est-à-dire se trouver dans une situation où il va être en proximité de ce qui touche à la mort. Alors, ça pouvait être les pollutions nocturnes, ça peut être rencontrer un cadavre, ça peut être etc., etc. Je crois que dans cette civilisation ancienne, et là ça rejoint paradoxalement votre présentation, il y avait un sentiment très intense, très profond de la fragilité du monde. Le monde est fragile, le monde n'est pas donné une fois pour toutes et on n'a qu'à justement y vivre. Ce monde est fragile et le temple, c'était le lieu... de la jonction entre, comme dit Rabbi Shmuel Bornstein, entre l'en bas et l'en haut. Et le grand prêtre avait un rôle pour maintenir vivante cette jonction. Pourquoi fallait-il maintenir vivante cette jonction? Eh bien, pour que le monde ne périsse pas. Et donc c'est ça le sens très profond de ces sacrifices, par-delà notre appréciation de moderne, qui en somme souvent très loin.
Racine la peine en tête, moi. Vini, j'y cambou, douette, moi. Enchanté, l'amour. Tiens, moi, j'accassé. Racine la peine en tête, moi. Glou, camonté. S'il faut moins chanter, plairé en cri, plairé.
Pour moi, la colonisation, c'est le métissage qui produit de l'imprévisible. Pour moi, le métissage. C'est une étape absolument décisive, mais qui n'est pas déterminante. Parce que on peut concevoir un métissage mécanique, c'est-à-dire qui fait des résultats prévisibles. Pour moi, la colonisation, la colonisation des cultures du monde d'aujourd'hui dans leurs particularités, leur diversité, leurs différences qui se mettent en contact et qui produisent de l'imprévisible. Ce métissage des cultures produit de l'imprévisible.
Nous venons d'entendre le chanteur antillais Kali dans une chanson en créole intitulée Racine, suivie de la voix d'Edouard Glissant qui fait ici une distinction intéressante entre créolisation et métissage, un terme clé, Catherine Chalier, au cœur de la question du pur et de l'impur, dont l'identité apparaît comme l'un des enjeux majeurs. Vous vous intéressez au concept de métissage et de symbiose. Quelle place ont-ils dans cette problématique du pur et de l'impur ?
Alors, si on commence par la symbiose, étymologiquement, selon le grec, ça veut dire vivre avec et se développer avec. C'est d'abord un concept qui est relatif à la botanique et aux plantes, enfin la vie des plantes. C'est un concept qui a été... Et alors, ces deux corps qui se développent ensemble, ils peuvent en effet soit se développer ensemble, soit l'un se développer au dépens de l'autre, soit l'un et l'autre finalement se neutraliser. C'est un concept qui a été employé en particulier par Gershom Scholem lorsqu'il parle de la symbiose judéo-allemande à propos donc de la façon dont les Juifs ont été ou se sont sentis ou ont cru être accueillis par la société allemande. Et Scholem dénie toute pertinence à ce concept. Il dit que c'était une illusion, c'est-à-dire les Juifs allemands qui ont cru à cette symbiose et qui ont tout donné, ont renoncé à beaucoup de leur propre culture, et puis finalement, les Allemands se seraient nourris, donc voilà le sens négatif, se seraient nourris de ce qu'ils pouvaient apporter pour ensuite les rejeter de façon abominable, donc comme vous savez. Donc voilà, ça, et donc la symbiose, quand on dit de personnes qu'elles ont un lien symbiotique, c'est rarement positif, c'est-à-dire c'est une impossibilité, si on place au plan humain et non plus au plan des plantes, c'est une impossibilité d'être sans, justement, voilà, et c'est toujours destructeur, finalement. Alors, le métissage, c'est un peu différent, et donc c'est un concept qui est très, dont on parle beaucoup, mais il n'est pas non plus lui-même sans illusion, parce que, alors, il y a plusieurs possibilités. Alors, on dit, par exemple, eh bien, que le métissage, il viendrait, en particulier à propos de la colonisation, qu'il y aurait eu des cultures qui auraient été donc abîmées, détruites, dominées par la colonisation, ce qui est vrai. Mais ce que montrent les recherches dans ce domaine, c'est que ces cultures n'ont jamais existé dans un état de pureté originelle, comme certains voudraient le croire, qu'elles étaient elles-mêmes déjà porteuses de différences, et c'est une première chose. Et d'autre part, que si métissage il y a eu métissage dans les deux sens. C'est-à-dire que la colonisation n'a pas non plus été indemne de ce que ces cultures apportaient. Donc c'est un concept à double sens. Et puis, par ailleurs, je suis pas sûre qu'on puisse, comme c'est parfois le cas aujourd'hui, de le considérer comme la clé qui va résoudre tous les problèmes de la coexistence et de la vie ensemble des peuples qui constituent une nation.
C'est-à-dire pour vous, c'est ni symbiose ni métissage, c'est une autre voie, une troisième voie qu'on va découvrir la semaine prochaine. Mais est-ce que vous pouvez préciser, à la fois dans la symbiose et dans le métissage, où se trouve le pur et où se trouve l'impur, qui est quand même la clé de votre analyse, Catherine Chalier?
Je ne sais pas, c'est un jeu de force. Hein. C'est un jeu de force. Et justement, la tentation, ça peut être soit de vouloir à tout prix retrouver le pur que le métissage cacherait. Et par exemple, certains disent que le créole, voilà le pur par rapport au français qui est venu. Or, le créole est déjà impur. Ce n'est pas vrai. Et donc, le but, c'est arriver à une humanité métisse. Qu'est-ce que ce concept d'humanité métisse peut bien vouloir signifier? Donc, et je pense ici que c'est un jeu de force qui est finalement trompeur, et avec toujours en sous-jacent un désir d'échapper à ce métissage pour essayer soit de retrouver une pureté qui aurait été abîmée par ce métissage, et là alors on a la porte ouverte à toutes les tentations justement de se crisper sur une soi-disant origine pure qui n'a jamais existé que dans l'esprit de certaines personnes. Ça c'est la première tentation. Et la deuxième tentation qui me semble, qui est l'inverse, c'est de croire que, eh bien, nous n'avons fait que nous emprunter les uns les autres et nous n'avons aucune possibilité de penser véritablement ce qui nous fait une culture et un peuple, une religion, etc. Et je crois que les deux sont faux.
Et donc, comment vous nommeriez cette troisième voie, cette autre pureté, si on peut dire, cette pureté du mélange qui était une sorte d'oxymore?
Oui, mais ce que je pense qu'il faut penser, c'est qu'il y a des mélanges qui sont destructeurs. Pour moi, un mélange qui est destructeur, c'est un mélange qui nous conduit au sens que j'ai dit déjà tout à l'heure, vers la mort, vers la confusion, vers le tohu-bohu, et un mélange finalement où on perd absolument tous ses repères. Mais il y a bien sûr des mélanges qui sont des mélanges créateurs, des mélanges de vie. Je n'oppose pas à ces mélanges destructeurs une pureté qui serait restée intacte dans une soi-disant origine ou bien dans une absence de contact que l'on voudrait désormais préserver dès que nous voyons un étranger approcher. Je pense que là, il y a deux dangers, à la fois ces deux facilités, mais ces deux dangers extrêmes, parce que celui qui veut défendre à tout prix une pureté qui est une pureté tout à fait fantasmatique, fût-elle une pureté de sang, comme les Espagnols au temps de l'Inquisition, limpieza de sangre, on sait ce que ça donne.
Alors l'imprévisible créole dont parle Glissant est peut-être intéressant dans votre réflexion.
Oui, je connaissais pas ce texte ici, mais oui, tout à fait.
J'aimerais revenir, grâce à la règle de la première occurrence, au terme de pur et d'impur, occurrence passionnante, car elle concerne les animaux que l'on peut consommer, les animaux purs, et ceux que l'on ne peut pas consommer, impurs. Un animal pur ou consommable doit ruminer et avoir le sabot fendu. Catherine Chalier, qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça ne m'inspire pas grand-chose, pour être franche. Je crois simplement que l'animal impur, ici, il ne faut pas prendre l'impureté, justement, comme quelque chose qui serait de l'ordre de mauvais, de nuisible pour la santé, comme il y a certaines interprétations hygiénistes de ces textes. Je crois que c'est peut-être pour nous mettre en garde contre l'idée que ces forces pures et impures, elles touchent tous les niveaux de notre vie, et donc même aussi le niveau de notre alimentation. Mais honnêtement, je ne connais pas grand-chose sur ce sujet.
Je pensais, un sabot fendu dit par exemple la liberté d'un choix d'aller à droite, d'aller à gauche. La rumination dirait la prudence que l'on doit avoir dans l'énoncé d'une idée qu'il faut reprendre maintes et maintes fois sans se contenter d'une vérité ultime qui serait une idée pure et définitive, hors temps et sans histoire. Et je pensais aussi à la notion de « deux », le sabot bifide, qui est l'origine de toute lignée, un thème central pour faire obstacle à l'illusion de l'origine pure.
Oui, c'est une très belle interprétation dont je vous remercie. Et je crois que ça, cette mise en garde, elle doit être très importante dans le judaïsme également, parce que la tentation de la pureté telle que j'ai essayé de la dénoncer à l'instant, elle est présente dans toutes les religions, en particulier pour maintenir en elle le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam. Il est par exemple extrêmement frappant de voir que par exemple, en ce qui concerne le christianisme et l'islam, il y a eu cette idée, je cite des textes pour le prouver dans ce livre, pour le christianisme et l'islam, voulait montrer que la Torah des juifs était une falsification et que eux avaient retrouver le texte authentique. Et il y a un épisode où des chrétiens ont trouvé en Chine un manuscrit qu'ils pensent être préalable justement à la falsification, mais bon, ce n'était pas le cas. Et donc, les talmudistes auraient falsifié le texte ici. Mais à l'intérieur même du judaïsme, on a aussi cette tentation, en particulier les karaïtes, qui pensent aussi à cette falsification. Et à chaque fois, c'est le même geste, c'est la fascination pour une origine soi-disant pure qui serait est celle que nous devrions retrouver. Et on sait qu'au nom de cela, au nom d'une lettre qui serait restée pure, eh bien, des exactions terribles peuvent être commises. Mais ça touche plein de dimensions de la vie humaine.
Oui, je pensais aussi à ce sabot bifide, ce « deux » fondamental, qui s'oppose peut-être aussi au mythe de la langue originelle qui fait florès chez de nombreux savants en quête de pureté de l'origine, ou qui voulait déplacer l'origine encore plus loin dans le temps pour ne pas la voir s'incarner dans des personnages et des textes qui n'étaient pas ceux de leur choix idéologique. Je pense bien sûr à cette question du sanskrit et de l'indo-européen que vous abordez dans votre livre, Catherine Chalier.
Oui, ça c'est un épisode extrêmement important, et Maurice Lander, dans son livre sur les langues du paradis, l'a analysé de façon très remarquable et très intéressante. Comment ces savants, donc c'est important, c'est les savants qui se sont laissés aller à un imaginaire qui consistait à voir donc dans le sanskrit la langue originelle, et qui ont du coup fait même de Jésus quelqu'un qui serait proche de cette langue originelle, et surtout c'était une volonté aussi de déposséder les Hébreux de toute possibilité d'évolution, c'est-à-dire et de création, de créativité plus exactement.
Merci Catherine Chalier pour cette passionnante première étape de ce voyage au cœur de la pureté et de l'impureté. Nous avons maintenant quelques éléments précieux pour aborder la seconde étape qui sera consacrée à une autre voie, à ce que vous appelez l'autre pureté, dont quelques indices ont affleuré dans certaines des réflexions d'aujourd'hui. Je vous propose donc de nous retrouver la semaine prochaine. En attendant, je rappelle le titre de votre ouvrage, « Pureté ». Impureté, une mise à l'épreuve, paru aux éditions Bayard. Je signale aussi la sortie d'un autre de vos ouvrages consacré à la pensée du Rav Shmuel Bornstein que vous avez cité et intitulé « L'espoir chassidique » paru chez Arfuyen. Merci encore Catherine Chalier.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui Cédric Châtelus, à la réalisation comme d'habitude d'Annie Journeau. Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.